Voilà, j'aimerais lire quelques versets. Donc, commençons par 1 Corinthiens au chapitre 6. Versets 15 et suivants. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 2 Corinthiens 11, versets 1 à 5. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Je vais lire le prochain encore. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui... Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Voilà, je ne vais pas traiter du tout tous ces versets en détail. Je vais surtout m'arrêter sur 2 Corinthiens au chapitre 11 et le verset 3 et 4. Simplement pour le premier passage, c'est intéressant de voir que l'apôtre Paul parle du corps, de ce qui se passait physiquement dans l'Église. Il y avait là des problèmes. Et on voit que dans son développement, lorsqu'il arrive au verset 20, il passe au spirituel, c'est-à-dire qu'il utilise les difficultés, le péché dans l'Église, qui est la mauvaise utilisation du corps de l'homme et de la femme, et il passe dans le spirituel au verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et Corinthiens 2, verset 11, il parle du corps, l'Église. « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je vous ai fiancé à un seul époux. » Ce qui est vrai dans le physique est vrai dans le spirituel. Et c'est ce que l'apôtre Paul précise. Dieu nous veut purs. Satan veut nous salir. Dieu veut un peuple mis à part, qui se purifie quotidiennement, en permanence. Satan a un plan, c'est de tout mettre en œuvre pour que cela ne se fasse pas. Pour que cette fiancée, et là, évidemment, il s'agit de l'Église, mais l'Église, c'est composé d'individus. Donc pour que cette fiancée et chacun des individus qui la composent soit sali. Que cette pureté soit affectée par le péché. Parce que Satan a une œuvre qui est de vouloir se moquer de Dieu, se moquer du peuple de Dieu. Et de faire en sorte que, et ça c'est son rêve, ce que Dieu a prévu ne se passe pas. Et là, la question qui se pose, qu'est-ce que nous faisons pour cela? Comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous sommes du côté de Dieu? Ou est-ce que, finalement, nous œuvrons avec le malin? On me dira, non, jamais. Alors, on va voir que c'est peut-être pas aussi évident que ça. J'écoutais dernièrement le témoignage d'une jeune fille, Rivka Bari, je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler. C'est une jeune qui est américaine, qui habite donc aux États-Unis, mais qui est d'origine sri-lankaise par ses parents. Et la famille est musulmane. Et cette jeune fille était interrogée par des journalistes parce qu'elle venait de quitter sa famille. Elle avait tout juste 17 ans et elle venait de traverser les États-Unis, de faire 30 heures de bus pour s'échapper le plus loin possible de son foyer, parce qu'elle craignait pour sa vie. Elle craignait que, tout simplement, son père ne mette à exécution les paroles qu'il avait dites, c'est-à-dire qu'il la tuerait, parce qu'elle lui avait déclaré que Jésus-Christ était devenu son Seigneur et son Sauveur. Et que depuis de nombreuses générations, la famille était musulmane, et qu'aujourd'hui, elle, qui se disait chrétienne, était un déshonneur pour la famille. Et que ce déshonneur ne pouvait être lavé que dans le sang. Alors, un soir, elle est rentrée dans un bus et elle est allée rejoindre un pasteur qu'elle avait rencontré sur Facebook, n'est-ce pas? Et comme ça, elle s'était convertie. Elle avait donné son cœur à Jésus au travers d'Internet. Son papa lui avait offert un ordinateur, elle avait 14 ans. Et c'est en utilisant cet ordinateur et les moyens de communication qu'elle a, lors d'une conversation sur Facebook, rencontré ce pasteur qui lui a annoncé l'évangile et elle a donné sa vie à Jésus. Alors, la journaliste qui lui posait des questions lui dit « Mais Voilà, tu as... Qu'est-ce que tu attends maintenant? Qu'est-ce que tu espères maintenant? Et là, c'est sorti comme un cri. Je veux être libre pour adorer mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux être libre pour aller à l'église le dimanche. Je veux être libre pour lire ma Bible. Je veux être libre pour le Seigneur Jésus. 16 ans. Elle a explosé. Je veux être libre pour adorer. Frères et sœurs, nous aussi, en principe, nous avons été libérés. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette liberté? Est-ce qu'il y a un cri dans notre cœur, une explosion qui dit « Mais oui, je suis libre d'adorer le Seigneur Jésus ». Qu'est-ce que nous faisons de notre liberté? Si nous l'utilisons pour nous-mêmes, si cette liberté est toute orientée vers la recherche des plaisirs, quels qu'ils soient, intellectuels, les plaisirs de la chair ou les autres plaisirs, c'est-à-dire profiter de la vie pour ce que la vie peut nous donner, dans tous les domaines, si c'est juste pour cela que nous avons été libérés, alors c'était pareil si nous étions restés dans les liens. Ça ne fait pas de différence. Et de toute façon, si nous vivons comme cela, le résultat, c'est que notre vie spirituelle s'appauvrit. Et nous ne sommes pas en train de grandir. Nous pouvons confesser, professer ce que nous voulons, mais nous ne sommes pas en train de grandir en tant que chrétiens. Nous sommes en train de nous appauvrir. Notre cœur est en train de se fermer. Et nous devenons incapables d'aimer qui que ce soit. Si nous l'utilisons pour le Seigneur Jésus, si la liberté, c'est pour adorer Dieu, alors la vie change vraiment. Et là, ça nous donne déjà des indications sur « Mais pourquoi est-ce que ma vie va si mal ? Est-ce qu'elle est toute orientée vers le service de ma propre personne et de ce que Jésus peut faire pour moi ? Ou alors est-ce qu'elle est orientée complètement vers le service de Dieu et vers ce que moi, je peux faire en obéissant à Jésus. Les évangiles, c'est... Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais je m'en suis rendu compte, je lisais Oswald Chambers qui disait dernièrement, enfin, dans un livre dernièrement, et il disait, les évangiles, c'est ce que Jésus demande de faire. Il dit, va. Quand il parle aux gens, c'est pour leur dire, va, va par là-bas, fais ceci, montre-toi là. Et pour nous, les évangiles aujourd'hui, c'est souvent, Seigneur, qu'est-ce que tu peux me donner? Et ça contraste, n'est-ce pas, avec la réalité de Dieu. C'est que Dieu fait quelque chose pour nous, en première instance. Et lorsqu'il a fait, il nous dit, va. Agis pour moi. Mais nous essayons de tirer la meilleure part des choses tout le temps. Et lorsque Dieu a agi pour nous, alors nous voulons qu'il continue à agir encore. Il nous a délivrés, alors on veut aussi la richesse. Et on veut aussi la sécurité. Et on veut aussi le bien-être. Et on veut aussi la tranquillité. Je veux être libre pour adorer Dieu. Point. Vous savez, Dieu sait à quel point l'homme est inconséquent. Dieu sait que l'homme a besoin qu'on lui rappelle tous les jours ce qui est bien d'être fait. Et si vous prenez la Bible du début à la fin, vous verrez que sans arrêt, Dieu nous exhorte de différentes manières à nous garder ou à faire attention à la façon dont nous agissons. Je vais juste prendre un exemple dans le Deutéronome au chapitre 11, verset 16. Gardez-vous de laisser séduire vos cœurs, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Et ça, vous en trouvez dans toute la parole de Dieu. Et si vous allez dans 1 Jean 5, c'est « Gardez-vous des idoles ». N'est-ce pas ? Gardez-vous. 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 Dans ces versets que nous avons lus dans 2 Corinthiens 11, il est dit, je crains, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ce sont nos pensées qui sont le lieu où Satan attaque. C'est là qu'il agit pour faire en sorte que nous agissions non pas pour Dieu, mais pour nous-mêmes. Et si nous agissons pour nous-mêmes, nous-mêmes nous agissons pour Satan. Son objectif, c'est de dominer, c'est dans la mesure du possible, de partager nos cœurs entre Dieu et entre lui. Satan ne vient pas attaquer grossièrement. Il ne vient pas de façon frontale. Sauf dans certaines situations, dans certains pays, où il y a la persécution actuellement. Mais dans nos sociétés modernes et sophistiquées, il vient de façon détournée. Et ce qu'il cherche, c'est que cette pureté, comme je l'ai dit auparavant, soit salie. Que ce cœur de l'homme qui, lorsqu'il se donne au Seigneur, est complètement tout feu, tout flamme pour Dieu, peu à peu, lâche du lest et commence à s'occuper d'autres choses. Je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure. Ce que Satan cherche, c'est que nous ayons une relation illégitime avec lui. C'est que nous trompions Dieu. C'est ça. Et c'est à ça que fait allusion l'apôtre Paul lorsqu'il parle de vierge pure, fiancé à un seul époux. Et ce que Satan recherche, c'est que nous soyons adultères. C'est que, d'une certaine manière, il veut nous emmener dans son lit. Et pour ça, il va utiliser le domaine des pensées. Dans les pensées, il y a deux grands domaines. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a le domaine des connaissances, et il y a le domaine des affects. Les connaissances, c'est tout ce qui est là, alors tout ce qu'on peut enregistré, n'est-ce pas? Je lis la Bible et je retiens les versets. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la compréhension. Il ne s'agit pas que de lire, il ne s'agit pas que d'être une concordance ambulante. Ça ne suffit pas. Il faut aussi comprendre, prendre avec. Il faut savoir interpréter aussi. Tout ça, c'est de l'ordre de la cognition, des connaissances. Il faut savoir résoudre des problèmes. Eh bien, Satan vient attaquer tous ces niveaux de pensée, dans nos pensées. Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus non seulement avait la connaissance de la parole, on le lit ça lorsqu'il est dans le temple avec les rabbins, n'est-ce pas, à 12 ans, il avait déjà une grande connaissance. Et plus tard, il dit, ma nourriture, c'est ce que j'ai compris, ce que j'ai pris avec moi, ce que j'ai ingéré, ce que j'ai mangé de cette connaissance que je porte en moi. C'est de faire la volonté. N'est-ce pas? Il a appris la parole de Dieu. Il a compris la parole de Dieu. Il a interprété la parole de Dieu. Et d'accomplir son œuvre. Il a résolu un problème. Sachant que je suis fils, sachant ce que je sais, j'agis. Christ est l'homme parfait. Nous sommes en principe ses disciples. Nous devrions agir comme lui. Nous ne devrions pas laisser nos pensées être attaquées par Satan. Nous devrions, comme Jésus-Christ lui-même, connaître la parole de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu, il faut la lire, au moins, ou alors l'écouter. Il y a des gens qui ne savent pas lire. Il y a des gens qui ne savent pas lire. Vous avez une église en France de 100 000 tziganes. Il y en a parmi eux un grand nombre qui ne savent pas lire. Mais au moins, alors, il faut l'écouter, par tous les moyens. Lorsque nous l'avons écouté, il faut la comprendre, la prendre avec nous-mêmes, la méditer. Et il faut en tirer quelque chose. Il ne faut pas que nous soyons des auditeurs oublieux, de ceux qui se regardent dans une glace et qui disent « Oh, je ne suis pas beau !» Et alors ils s'en vont. Le Seigneur attend de nous que nous agissions et que les problèmes qui se posent à nous soient résolus dans le cadre de sa parole. Parce que de l'autre côté de la connaissance, il y a tout ce que le domaine des affects, où aussi Satan attaque beaucoup. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Les affects, c'est notamment l'attention. Alors, rappelez-vous comment Satan agit avec Ève. Il a attiré son attention. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour un vendeur, ce qui est important, avant tout, c'est de faire un contact. Et ce que Satan voulait lorsqu'il a posé la question à Ève, « Dieu a-t-il vraiment dit ?»« Tu ne mangeras pas. » Ce qui l'intéressait, avant tout, c'était d'avoir l'attention d'Ève, qu'il ait un contact, un ancrage sur lequel il peut continuer son œuvre. Et là se trouve le nœud du problème. Est-ce que nous prêtons attention aux stimulations du malin? Est-ce que... Moi, je ne sais pas comment vous faites lorsque les gens téléphonent à la maison pour vous vendre quelque chose. La première question qu'ils vous posent, ce n'est pas « avez-vous besoin de ceci ou de cela ?» ou ils vous disent « vous êtes bien, monsieur Scherer ?» Et là, on est coincé, n'est-ce pas ? On est bien obligé de répondre quelque chose. On ne peut pas dire non, surtout pas nous. Alors on dit oui, je suis bien, monsieur Scherer. Et ça y est, l'ancrage est là. Alors finalement, qu'on ait dit oui ou non, ça n'a pas d'importance. Parce qu'on aurait dit non, il me dit, ah bon ? Mais dans ce cas, il faut que je vérifie. Et de toute façon, il y a une autre question derrière qui va continuer à vous maintenir en ligne. Parce que l'objectif, c'est celui-là, c'est avoir votre attention. Comment est-ce que le diable fait avec vous ? Enfin, en ce qui me concerne, le téléphone, alors je n'écoute pas ce qui est dit, je dis oui, je suis bien, monsieur Scherer, je n'ai pas le temps de vous parler, je ne le souhaite pas et je raccroche. Je n'attends pas la réponse. Mais lorsqu'il s'agit des manœuvres et des stratagèmes que le malin met en œuvre pour nous avilir, comment est-ce que nous répondons ? Est-ce que nous répondons de la même manière ? Ou est-ce que nous disons « Ah bah tiens, je vais voir jusqu'où je peux tenir, ou jusqu'où je peux aller, ou je vais voir si je peux... Tout n'est pas mauvais dans ce qu'il me dit, il y a des choses qui sont bien, n'est-ce pas ? Il faut relativiser après tout, tout ce discours-là. » Ce que Satan veut surtout, c'est que vous ne raccrochiez pas. Il veut vous garder en ligne. Et il a des choses extrêmement importantes à vous dire. Des choses qui vont répondre à des besoins. Des choses qui sont à votre avantage. Frères et sœurs, le cri de cette fille. Je veux être libre pour adorer mon Seigneur. Parce que si vous donnez votre attention à Satan, vous allez vous apercevoir que dans les affects, cette capacité à la capacité à agir, qui normalement fait aussi partie des affects, la capacité à faire les choses pour Dieu. N'est-ce pas ? Il y a tout cet aspect où on intériorise la parole de Dieu. Hein, on l'interprète, on la comprend avec la connaissance et on l'intériorise. Et de cette intériorisation, il y a l'action. On fait les choses. Cette jeune fille avait rapidement intériorisé et elle a dû rapidement réfléchir pour faire la bonne chose, c'est-à-dire se libérer, partir. Il y a eu tout un procès ensuite, n'est-ce pas ? Il a fallu savoir quoi faire avec cette jeune fille. Elle était mineure, sous la responsabilité de ses parents. Elle a été mise dans un sorte d'orphelinat jusqu'à sa majorité. C'est ce qui a été décidé par le juge pour, parce qu'il n'était pas sûr qu'effectivement que rentrer à la maison, le scénario le plus probable, c'était qu'il l'envoie dans la famille au Sri Lanka et qu'il la marie de force. Voilà ce qui l'attendait au mieux. Alors, est-ce que nous sentons que notre capacité à agir est entière? Est-ce que nous sommes en mesure de faire les choses telles que nous savons que nous devrions les faire? Par exemple, nous savons que nous ne devons pas pécher. Dans ce domaine bien particulier où nous avons toujours été sensibles. Alors, est-ce que nous avons intériorisé le message de la parole de Dieu et tous les principes qui vont avec et qui nous interdisent de pécher? Et qui nous donne aussi la puissance, alors, de dire non. Ou est-ce que nous sommes toujours en ligne avec le malin, qui a quelques astuces et quelques stratagèmes pour nous dire, oui, mais tu sais, là, il va te falloir une longue cure d'âme pour que ce soit réglé. Est-ce que nous sommes attentifs à la parole de Dieu? Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que c'est ça dans notre cœur? Tu es mon Dieu. Je suis attentif, je suis accroché à tes lèvres et tout ce que tu me dis, je le prends comme étant la chose la plus importante qui m'est arrivée ou que j'ai entendue de toute ma vie. Je veux t'adorer, mon Seigneur. Alors, il y a des choses auxquelles nous résistons. Nous résistons, n'est-ce pas, lorsque la publicité se fait trop pressante, nous arrivons à résister. Et parfois, nous résistons à d'autres choses, et là c'est dramatique. Nous résistons lorsque nous devons prier, mais nous ne prions pas. Nous résistons lorsque nous devons lire la Bible, nous ne lisons pas. Nous résistons lorsque nous savons que nous devons aller aux réunions, alors nous n'y allons pas. Nous résistons lorsque nous devons demander pardon à notre frère, à notre sœur, et les choses restent dans l'état. Nous résistons. Eh bien, un pasteur chinois qui disait, vous, les Occidentaux, vous avez un problème. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous avez un problème. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous lisez de droite à gauche et votre tête fait toujours, non Seigneur, non Seigneur. Mais nous, Chinois, nous lisons de haut en bas. Et lorsque nous lisons, notre tête fait « Oui, Seigneur, oui, Seigneur !» C'est une anecdote, n'est-ce pas? Mais malheureusement, dans l'état actuel des choses, ça se confirme. C'est que souvent nous faisons « Non, Seigneur !» Nous résistons. Je crains que vos pensées ne se corrompe. Alors, je vais pas arriver au bout. Je vais terminer par juste une autre histoire. Il y a le témoignage que j'ai entendu récemment d'une autre jeune fille qui s'appelait Sung Kyung-yu, une jeune nord-coréenne de 18 ans, qui racontait comment ses parents et elle-même ont fui la Corée du Nord lorsqu'elle avait 6 ans. Ses parents étaient des gens très haut placés. Son père était un collaborateur du président, du leader Kim Jong-il. Et lorsqu'elle avait 6 ans, ils ont été persécutés politiquement. Et donc, ils ont fui la Corée du Nord pour se réfugier en Chine. Et là, quelqu'un de leur famille ou de leurs amis les a emmenés à l'église. Et là, ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus, les deux parents. Et cette jeune fille raconte que sa maman est décédée peu de temps après, en couche, et elle a été emmenée par une leucémie. Son papa avait le cœur rempli pour servir Dieu. Et il a fait une formation biblique. Et il est parti. Non, il a été arrêté. Il a été arrêté par les Chinois qui l'ont renvoyé en Corée du Nord. Ce qui arrive souvent lorsque les Coréens traversent et qu'ils sont arrêtés par les Chinois. Dans certains cas, ils sont renvoyés en Corée du Nord. Il a été renvoyé en Corée du Nord. Il a fait 3 ans de prison et il est rentré. Et là, le témoignage de la jeune fille qui a tout juste 18 ans disait que ces 3 années en prison ont motivé son père à tel point qu'il a cherché par tous les moyens à se préparer pour retourner en Corée du Nord avec des Bibles et travailler à l'évangélisation du peuple nord-coréen. Et donc, après 3 ans de prison, il est revenu en Chine, il a réuni des Bibles autant qu'il pouvait en trouver et il a embrassé sa fille et il est parti pour évangéliser. Il a été rapidement repéré par les services nord-coréens et son témoignage, c'était « Depuis, je n'ai plus eu aucune nouvelle de sa part ». Il a vraisemblablement été exécuté pour motif de trahison et d'espionnage. Cette jeune fille a été adoptée par un couple de Chinois chrétiens qui ensuite sont partis aux États-Unis et aujourd'hui, elle étudie aux États-Unis. Et son cœur, c'est de servir le Seigneur pour ses frères et sœurs de la Corée du Nord. Mais vous savez, ce qui m'a frappé dans ce témoignage, c'est l'action du Père. Nous avons ce premier témoignage de cette jeune fille dont je vous ai parlé tout à l'heure qui disait « Je veux être libre pour adorer Dieu ». Et nous avons ce second témoignage de cet homme qui a découvert la liberté, qui a utilisé cette liberté d'adorer Dieu pour se former, pour ramasser des Bibles, et ensuite pour accomplir la volonté de celui qui l'avait délivré. Il est parti, il a négligé cet aspect de liberté à partir d'un certain moment, pour dire maintenant je suis prêt. Ma vie est donnée à Dieu. Elle ne m'appartient plus. Ma vie est pour Dieu. Et dussé-je en mourir, je le servirai jusqu'au bout. Parce qu'il avait compris que la liberté que Dieu lui avait donnée, ce n'était pas pour lui-même. Ce n'était même pas pour le bienfait de sa fille. C'était pour servir le Très-Haut. Le témoignage de cette jeune fille est extrêmement émouvant. Vous pouvez le voir sur Internet. Mais il n'y a chez elle aucune amertume. Il y a beaucoup de fierté pour ce qu'a fait son papa. Et elle est elle-même convaincue que le temps qu'elle a doit être consacré à l'œuvre de Dieu. Ma question aujourd'hui, frères et sœurs, c'est la liberté que nous avons. Qu'en faisons-nous ? Seigneur notre Dieu, tu nous as sauvés et c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est une grande œuvre de ta part. Seigneur, tu nous as donné la liberté, mais cette liberté, Seigneur, avant d'être une liberté de déplacement et de mouvement, c'est une liberté dans le cœur. Seigneur, tu veux que nous soyons libres dans nos cœurs afin de te servir avec nos corps. Et je prie, ô Dieu, que tous les cœurs qui aujourd'hui encore sont dans les liens soient libérés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je prie, Seigneur, que là où il y a de l'adultère spirituel, tu interviennes avec la puissance de l'Esprit de Dieu et le sang de l'agneau qui a coulé pour le pardon des péchés. Et que tu sauves, Seigneur, ton peuple. Et que celui-ci soit capable de te servir ici même à Hasbrouck et partout où tu l'enverras. Seigneur, dans le nom de ton Fils, je te demande d'agir maintenant. Amen.